RFI 16h à Paris, 14h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
La Russie accueille le sommet des BRICS à Kazan, l'occasion pour Vladimir Poutine de montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale. Il doit rencontrer jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, un rendez-vous décrié par Kiev. Au Liban, un raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, peu après qu'un responsable du groupe ait écourté une conférence de presse qui se tenait dans le secteur. La situation au Proche-Orient qui s'est invitée aujourd'hui dans les débats au Parlement européen. Des milliers de détenus britanniques libérés ce mardi pour alléger la pression sur les prisons. Le gouvernement veut aussi étudier les options pour éviter l'incarcération systématique de certains délinquants. Et puis aux États-Unis, la société d'intelligence artificielle Perplexity, poursuivie en justice par deux journaux qui l'accusent de piller leur contenu pour alimenter son IA. C'est la plus grande réunion diplomatique qui se tient en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Le sommet des BRICS s'est ouvert aujourd'hui à Kazan. Le président russe reçoit une vingtaine de dirigeants étrangers. Pour Vladimir Poutine, il s'agit de montrer qu'il a des alliés et pas seulement parmi les adversaires des États-Unis comme la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, mais aussi avec ceux qui ont conservé des liens avec les Occidentaux comme le premier ministre indien Narendra Modi. Il rencontrera aussi jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le Kremlin ne s'est pas privé de souligner qu'il s'agit là d'une première depuis avril 2022. En Ukraine, en revanche, cette rencontre est loin d'être bien vue, Emmanuel Chaz.
L'annonce de la participation du secrétaire général des Nations Unies au sommet BRICS a vivement fait réagir en Ukraine. Andriy Sybiha, le ministre des Affaires étrangères, a publiquement déploré la présence annoncée à Kazan d'Antonio Guterres, qui avait il y a quelques mois refusé l'invitation ukrainienne à participer au premier sommet mondial sur la paix initié par Kiev et qui s'est tenu en Suisse avec plus de 90 pays présents. D'autres représentants des Nations Unies s'y étaient rendus, mais pour le ministre ukrainien, ce choix, je cite, « n'avance pas la cause de la paix et ne fait qu'endommager la réputation des Nations Unies ». Fin de citation. Une rencontre Guterres-Poutine serait perçue ici comme une réhabilitation du président russe à l'international, alors que Vladimir Poutine continue sa guerre d'agression contre l'Ukraine et est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour sa supposée responsabilité dans l'enlèvement et la détention sur territoire russe ou illégalement occupé de milliers d'enfants ukrainiens. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
La Russie est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa loi relative aux agents de l'étranger. Selon la CEDH, cette loi ne vise qu'à punir et intimider. Elle constitue une vraie menace pour la liberté d'expression. La Russie a été exclue en mars 2022 de la CEDH après l'invasion de l'Ukraine, mais les décisions de la Cour continuent à s'imposer au pays pour des faits antérieurs à cette date. Cette loi, on le rappelle, impose aux personnes présentes en Russie de déclarer leurs activités pour le compte d'organisations soutenues ou financées par l'étranger. Mais elle a régulièrement été utilisée contre des opposants au Kremlin. Dernière victime en date, le Français Laurent Vinatier, condamné à 3 ans de prison. Il vient de faire appel, on l'apprend ce mardi. Il est chercheur spécialiste de l'Union soviétique et travaille pour le Centre de dialogue humanitaire. C'est une organisation basée en Suisse, une ONG qui œuvre à la prévention des conflits armés. Au Liban, l'armée israélienne a lancé un nouvel appel à l'évacuation d'habitants de la banlieue sud de Beyrouth. Cette demande porte sur deux bâtiments spécifiques qui devraient être pris pour cible. Une frappe israélienne a visé cette zone, bastion du Hezbollah. Là, quelques minutes après qu'un responsable de cette formation pro-iranienne ait écourté une conférence de presse qui s'y tenait. La situation au Proche-Orient s'est invitée aujourd'hui dans les débats au Parlement européen à Strasbourg. Les eurodéputés ont échangé ce matin sur les derniers développements de la situation sur place. Ils s'inquiètent notamment du sort des soldats de la FINUL, la force de maintien de la paix de l'ONU, dont les positions ont été touchées à plusieurs reprises par l'armée israélienne. Laurent Castillo, le président de la commission en charge des pays du Machrek, est intervenu ce matin à la tribune. Il appelle à la fin des hostilités.
Le Liban est un pays frère, un pays cousin de la France qui vit depuis des années un drame politique, un drame humain. Et ces dernières attaques sont pour nous inacceptables. Si Israël a le droit de se défendre, le Liban ne peut pas accepter une agression et les forces de l'ONU non plus. Aujourd'hui, les soldats de la FINUL sont là pour la paix, et un pays ne peut pas comme ça attaquer les soldats de la FINUL. Il y a des limites et le respect du droit international. Il y a des conséquences humanitaires aujourd'hui. On voit réapparaître du choléra. Le Parlement ne peut qu'être à côté du peuple libanais et nous avons appelé avant tout à la paix dans ce contexte très particulier du Liban.
Laurent Castillo, président de la commission en charge des pays du Machrek au Parlement européen. Et puis aujourd'hui, le secrétaire d'État américain est au Proche-Orient. C'est son 11e voyage dans la région pour Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine qui est toujours en quête d'un cessez-le-feu à Gaza. Il veut cette fois capitaliser sur la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui a été tué la semaine dernière par l'armée israélienne. Au Royaume-Uni, plus d'un millier de détenus libérés de manière anticipée aujourd'hui pour désengorger les prisons. C'est un mécanisme d'urgence qui a été activé pour la deuxième fois en 3 mois. Il vise à alléger la pression en cas de surpopulation carcérale. Et en parallèle, Emeline Vint, le gouvernement tente de trouver des solutions de long terme pour soulager le système pénitentiaire.
La ministre de la Justice, Shabana Mahmoud, lance ce mardi une révision des condamnations pour explorer des pistes afin de soulager un système carcéral saturé. Par exemple, la fin des condamnations de courte durée, le renforcement des assignations à résidence, l'utilisation de technologies pour inciter les condamnés à ne pas manquer leur rendez-vous avec les services de réinsertion, l'une des principales causes de révocation de liberté conditionnelle, et puis l'introduction de peines spécifiques pour les violences de genre. Le député conservateur chargé de la révision, par ailleurs membre d'une ONG qui défend les réformes carcérales, doit rendre ses propositions l'année prochaine. Elles seront alors examinées par le Parlement. La réforme doit permettre de trouver des solutions de long terme à la surpopulation carcérale, tout en conservant un aspect dissuasif et en prévenant la récidive. En 3 mois et demi, le gouvernement travailliste a déjà dû autoriser la libération anticipée de 3000 détenus, ayant effectué plus de 40% de leur peine, y compris ceux qui purgent une incarcération de plus de 5 ans. Le projet de réforme s'ajoute par ailleurs à la promesse de l'exécutif de construire 14 000 nouvelles places de prison. Emeline Vint, Londres, RFI.
La Chine a entamé des exercices de tir à balles réelles à une centaine de kilomètres de Taïwan. Pékin qui maintient la pression sur l'île une semaine jour pour jour après des manœuvres d'encerclement à grande échelle mobilisant un nombre record d'avions et de navires. Cette nouvelle démonstration de force des autorités chinoises est qualifiée de menace pour la stabilité régionale par les autorités taïwanaises. Aux États-Unis, plusieurs journaux poursuivent en justice la société d'intelligence artificielle Perplexity. Le Wall Street Journal et le New York Post accusent cette IA générative de piller leur contenu pour alimenter ses réponses. L'entreprise est dans le viseur de plusieurs autres journaux américains comme Forbes ou encore le New York Times. Une question de protection de la propriété intellectuelle mais aussi de préservation des revenus publicitaires, Gali Bonin.
Perplexity est l'une des plus importantes startups d'intelligence artificielle sur le marché. Croisement entre ChatGPT et un moteur de recherche traditionnel, son interface répond aux questions de manière structurée, mais a l'avantage de proposer un lien vers les sources de chaque information qu'elle fournit. Le problème, ce mode opératoire n'encourage pas les utilisateurs à suivre ces liens, ce qui prive les médias de tout revenu publicitaire sur leur site Internet. Accusé de plagiat massif par plusieurs entreprises de presse, Perplexity persiste à utiliser leur contenu. Elle assure qu'aux yeux de la loi, personne ne détient de droit de propriété intellectuelle sur des faits. Une version contestée par les médias qui affirme que son modèle d'affaires repose sur l'exploitation illégale du travail des journalistes. À peine 2 ans après sa création, la start-up californienne connaît une croissance fulgurante. Cet été, elle a triplé sa valorisation, estimée maintenant à 3 milliards de dollars. En pleine levée de fonds, l'entreprise espère désormais atteindre plus de 8 milliards de dollars.
Gali Bonin, en France, l'acteur et réalisateur Nicolas Bedos, condamné aujourd'hui à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, pour des agressions sexuelles sur 2 femmes. C'était en 2023, une décision dont il va faire appel. En football, 3e journée de Ligue des Champions ce mardi, au programme notamment la rencontre entre le PSG et le PSV Eindhoven. Une belle occasion pour le club parisien de retrouver la victoire pour l'instant. Avec un succès et une défaite, le bilan n'est pas très reluisant pour les Parisiens. Coup d'envoi à 19h en temps universel. Autre match à suivre, Real Madrid-Borussia Dortmund.